Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre Café des Sports. Il ouvre ses portes comme chaque vendredi. À mes côtés, deux piliers, un habitué et un visiteur occasionnel. Pilier gauche, Rémi Ngono, bonjour Rémi.
Normalement, pilier droit, pilier milieu, pilier moteur. Oh, bonjour mon cher ami.
Dans la maison du Café des Sports, un seul pilier suffit si je vous suis. C'est ça ? Pas besoin de contradicteur ? Vous savez que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce qu'il y a un pilier gauche, donc vous, mais il y a un pilier droit. Xavier Barré,
oui, bonjour Xavier. Oui, bonjour à tous. C'est beaucoup plus solide que l'autre pilier qui est un peu château.
Oh, comme on dit, le pilier avec les termites là, ça ne vaut pas la peine.
Tous les piliers sont importants pour que le Café des Sports tienne. Et il tient depuis plusieurs années. D'ailleurs, on salue Annie Gasnier qui nous écoute, bien sûr. L'habitué du Café des Sports, c'est Franck Simon aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Hugo. Bonjour officiel, bonjour Xavier.
N'essayez pas d'imiter.
Non, il est inimitable, exact.
Exactement. Et le nouveau venu, c'est peut-être pas sa première, ceci dit. En tout cas, c'est un visiteur occasionnel. Il remplace le Réfel et Rondre Valente, qu'on salue également, Frédéric Suto. Bonjour Frédéric.
Bonjour, je vais prendre mon meilleur accent argentin aujourd'hui pour essayer de parler
de Barcelone. Là aussi, vous tentez l'impossible. Imiter leur effet, c'est impossible. Au menu du Café des Sports, aujourd'hui, c'est un peu spécial, cidre et galette saucisse pour tout le monde, puisque la Bretagne et le Stade Rennais sont à l'honneur. Pour la première fois depuis la création de Radio Foot, les Rouges et Noirs font rêver la France. Succès éclatant, 3-1 à Séville hier en Ligue Europa. Mbagnang, Ismail Assar, Ben Arfa et compagnie ont hissé Rennes en 8e de finale d'une Coupe d'Europe pour la première fois de son histoire. La Bretagne, mais également la Grande-Bretagne à la carte du café. Un premier titre en jeu en Angleterre ce week-end, la League Cup. Chelsea-Manchester City, très belle affiche. Les Blues vont-ils se relancer? Les Sky Blues vont-ils tout rafler? Et puis, nous irons nous asseoir en terrasse. Il fait très beau et on vérifiera que le soleil brille également sur la Côte d'Azur, pas qu'à Paris. On vérifiera s'il brille sur Marseille et sur Monaco, deux équipes qui vont tenter de confirmer leur regain de forme ce week-end. Radio Foot, le Café des Sports, les débats sont ouverts.
Qualifié, voilà le coup de froid qu'on attendait. Et Ben Arfa avec Ismail Assar.
Oh, allez, et oui, c'est bien sûr, super.
Adrien Hunou, Olé Rennais en train d'écrire l'histoire ici à Séville. Oh, le Bétis revient et Rennes.
Quelle erreur.
Pas aidé les Rennais vraiment.
Oh, allez.
Sont en huitième de finale de l'Europa League pour la première fois de leur histoire.
Dans l'univers du ballon rond, tout est possible, y compris une corrida bretonne en Andalousie, une corrida footballistique s'entend. Après avoir dilapidé une avance de 2 buts au match aller, après avoir concédé le nul à la maison, 3-3, les Rennais sont allés s'imposer 3-1 sur le terrain du Betis Séville hier en 16e de finale retour de la Ligue Europa. C'est un exploit pour le football français, une performance historique, on le disait, pour des Rouges et Noirs qui s'apprêtent à vivre deux nouvelles soirées de gala. Ce sera face à Arsenal en 8e. On va y venir. D'abord, le match d'hier. Quelle surprise, Xavier. Je suis pas sûr que vous vous y attendiez.
Pas du tout. Moi, je me disais déjà que c'était un miracle qu'ils aient pas perdu le match aller à Rennes. Et je me disais, cette équipe rennaise, elle a encore une fois beaucoup de bonne volonté. Il faut rappeler qu'ils avaient eu beaucoup de mal quand même à sortir de leur poule. Ils s'étaient qualifiés au dernier match en battant Astana, qui était déjà en vacances depuis 3 semaines. Et donc, il y avait quand même beaucoup de doutes parce que cette équipe du Betis, elle pratique un très bon football, elle avait gagné à Barcelone en championnat, elle avait vraiment fait des bons résultats toute cette saison et ils étaient sortis d'une poule beaucoup plus difficile puisqu'il y avait notamment Milan dans leur poule et qu'ils les avaient éliminés hein, dès la phase de poule de cette Europa League. Donc moi franchement, j'y croyais pas, maintenant je suis très heureux.
Vous êtes heureux aussi, Rémi Ngono, que les Rennais vous aient donné tort, puisqu'il paraît que vous ne croyiez pas beaucoup aux chances de Rennes. On pourrait ressortir les bandes, attention à vous. Hein.
Tout à fait, je ne pouvais pas croire, dans la mesure où déjà ils n'avaient que 14% de chances de qualification, ce qui était déjà très énorme. Et quand on voit d'ailleurs, comme je le disais au match, ils avaient à domicile 27%. 60% de possession de balles et que, bien sûr, les visiteurs, eux, ils avaient eu 10 tirs cadrés. Donc, je ne voyais pas de miracle, surtout que connaissant cette équipe, je savais comment est-ce que cette équipe a eu à causer des problèmes à des gros de la Liga. Mais je crois également que c'est surtout ça aussi qui a été la force des Rennes. C'est-à-dire que du côté espagnol, on s'attendait déjà à ce que soit consommée totalement la victoire, parce que ils ont très bien joué, ils ont mis Rennes en difficulté à l'extérieur, mais sauf que, bon, au match retour, il y a quand même eu quelques aménagements tactiques au niveau de la formation de Rennes, mais surtout aussi, je crois que il y a eu une sorte de laisser-aller, une sorte de manque d'engagement des Espagnols qui se sont vus hyper beau, et malheureusement, il y a un proverbe africain qui dit que on n'apprête pas les condiments tant que le lièvre court encore en brousse.
Franck Simon, vous êtes d'accord? Trop d'arrogance du côté du Bétis, ou bien ce sont simplement les Rennais qui ont été bons?
Trop de statistiques du côté de Rémi. J'ai l'impression que c'était un clone de Xavier Barret. Je vois qu'il se passe des trucs dans cette émission. Non, excuse-moi Rémi. Hein.
Vous êtes à droite, à gauche, vous êtes partout, vous, comme Ben Arfa hier.
Toujours. Hein. Mais en fait, je pensais pas qu'ils allaient faire ce super résultat, parce que c'en est un, pour les raisons qu'a énumérées notamment Xavier. Le match aller m'avait donné en fait le sentiment que ça allait être compliqué. D'abord, ils avaient été bien aidés au match aller, les Rennais. L'arbitrage les avait bien aidés. Ils avaient mené 2 buts, ils s'étaient fait rejoindre. Donc, on se disait, voilà, dans le jeu, cette équipe andalouse, c'est jouer deux comme elle le fait en championnat. Et en même temps, ils leur ont mis 3 buts. Donc, les Bretons avaient ce petit pécule, ce petit truc qui leur permettait d'imaginer l'important, l'essentiel. Et puis, je pense qu'il fait la différence. On va y revenir peut-être après, Hugo. Mais c'est l'entraîneur. C'est Julien Stéphan.
Alors, on peut tout à fait y venir dès maintenant.
Je pense que, voilà, lui, il est au cœur de ce renouveau. Peut-être tout à l'heure, un peu plus tard, on parlera aussi de l'OM et de Monaco. Il y a des renouveaux sportifs.
Tout à fait.
Mais il y a un renouveau sportif du côté de Rennes, et c'est le fils de Guy Stéphan. C'est Julien Stéphan, qui a fait ses classes là-bas, et puis qui travaille bien, qui retrouve des équilibres, qui sait, je pense, trouver et faire du management humain. Il y est parvenu. Et puis, il y a lui, il y a les joueurs, il y a un gardien. Vous savez que je suis gardien, donc, évidemment, je vais mettre un petit coup d'éclairage sur le gardien. Bah, Koubek, hier, il a rendu des services
l'homme
importants.
L'homme du match. Oui, à des moments.
J'ai cru lire ça aussi dans une gazette sportive. Oui.
Bien connu.
Voilà. Donc,
on a mis au niveau de l'équipe que c'est Ben Arfa qui est l'homme du match.
Avec alors, il y a deux hommes du match.
Athènes Ben Arfa, souvenez-vous, il y a une semaine après le match aller, quand Rennes a mené 3-1 et s'est fait reprendre dans le final 3 partout. À l'issue du match, je crois me souvenir qu'Athem, il a dit, de toute façon, on va aller là-bas pour jouer, pour marquer des buts. Et si on doit en prendre 5, on en prendra 5. Mais on jouera notre chance
avec
à fond.
La philosophie
et je pense qu'on va y revenir quand on regarde la composition d'équipe hier de Julien Stéphan. Ils sont allés là-bas pour marquer des buts, pour marquer les premiers. Et c'est ce qui s'est passé. Rennes a joué sa chance
mais
à fond.
C'est ce qui fait la différence avec son prédécesseur.
Et on retrouve le parfum enfin d'une épopée européenne. Il y a quelque chose là.
Est-ce que ça, c'est une leçon aussi pour les clubs français qu'on a souvent accusé de jouer un peu petit brin en Europe? Julien Stéphan, lui, c'est un jeune entraîneur et il y allait franco, comme le soulignent vos collègues.
Oui, avec la seule différence, c'est que Rennes a tout à prouver dans cette compétition. Contrairement, on a eu le discours un peu différent sur l'OM. On a dit l'OM l'an dernier, ils étaient en finale de la Ligue de l'Europa League. Leur objectif, c'était aller en Ligue des Champions. Et à l'arrivée, ils sont pas en Ligue des Champions et ils ont pas gagné l'Europa League. Donc, bon, l'OM, l'objectif, c'est la Ligue des Champions. Rennes, c'est pas pareil. Rennes, ils ont rien. Ils ont un palmarès absolument inexistant. Je crois qu'ils ont plus rien gagné en niveau national depuis la Coupe de France. C'était en 1971, je crois. Donc,
ils ont fait une finale il y a une demi-douzaine d'années.
Deux finales de Coupe de France qu'ils ont perdu contre Guingamp. Ouais. Et donc, c'est un club qui n'a rien comme histoire. Donc, il est temps de marquer justement son empreinte. Faut rappeler qu'ils ont un actionnaire qui est quand même richissime, hein. C'est la famille Pinault, père et fils. Donc, il faut à un moment ou un autre que ce club justifie tous ses investissements. Ce parcours européen leur en donne l'occasion. Maintenant, souhaitons que ça dure, mais on verra au prochain tour.
Non. Je suis pas d'accord quand les gens entendent ça, un actionnaire richissime et tout. Non. Rennes, c'est 60 millions d'euros de budget. Donc, il faut déjà que les gens le sachent. Donc,
beaucoup d'argent avait été investi, notamment au début de l'aventure Pinault, à la fin des années 90, au début des années 2000.
Même si on peut. Big Four français.
Mais attendez, c'est 60 millions, ça vaut
parce que Pinault
d'un joueur. Et quand on voit les investissements, c'est vrai, ils ont su acheter. Parce que, par exemple, Ben Arfa, c'est gratuit. Donc, Ben Arfa est relancé. Quand ils prennent Grenier, bien évidemment, il s'est relancé en Guingamp parce qu'il n'a n'avaient rien joué à Lyon en dehors de 34 minutes. Ils ont investi combien? 3 millions. Donc, quand on essaie de regarder au niveau de l'argent, et c'est ce que, justement, je devrais dire aujourd'hui, ce n'est pas de l'argent qui fait le football. Comme, justement, avec Olympique de Marseille, on dit toujours les clubs français, ils manquent de budget, manquent les effectifs, on ne peut pas aller avec les autres, mais avec des petits moyens, quand on sait y aller et savoir investir, et quand on sait remettre des joueurs en confiance, on peut toujours faire de très grandes choses. Non, dont je voulais enlever de la tête de Barré et surtout des auditeurs qui nous écoutent que c'est un budget astronomique, que c'est 60 millions.
On peut pas dire que le Stade Rennais est des petits moyens. Le Stade Rennais ensuite a une politique rationalisée, et Hugo Moissonnier faisait allusion quand il a fait des chèques au début de son arrivée au club.
C'était il y a 15 ans
effectivement, le père Pinot. Au début, il a acheté des Brésiliens à qui veux-tu qui voilà. Il a été la risée très vite du monde du football parce qu'il s'était fait un peu rouler. Du coup, il a dit maintenant, le club, vous allez vous débrouiller avec vous-même. Je mets plus d'argent. De temps en temps, il épongeait quand même quelques dettes, mais il mettait plus. C'est-à-dire qu'il devait se débrouiller avec l'argent des droits télé, les recettes billetterie. Le stade a été refait, même s'il a pas une énorme capacité, il est régulièrement plein, et les transferts. Et comme il y a un centre de formation extrêmement performant, effectivement, de très nombreux joueurs formés à Rennes sont ensuite partis ailleurs. Aujourd'hui, effectivement, si Pinot, la famille Pinot, voit que le club a enfin des résultats, peut-être qu'ils vont se décider à mettre un petit peu plus d'argent pour lui faire monter un cran.
Mais Xavier, je suis désolé, mais on peut pas non plus réduire cette épopée européenne qui commence pour eux à simplement des millions, des fêtes. C'est aussi une aventure humaine, tu vois. Ça serait bien qu'on recentre sur l'aventure humaine, sur les joueurs, sur l'entraîneur.
Mon cher Franck, je voulais vous parler de certains joueurs. On a parlé de Ben Arfa, très bon hier, toujours aussi insaisissable Atem Ben Arfa. Je voulais également qu'on parle du dernier buteur de la rencontre, le Sénégalais Mbaye Niang, qui a connu un début d'aventure compliqué à Rennes. Première partie de saison, une seule réalisation au compteur. Là, il en a inscrit 4 de plus.
Il ne jouera pas le 8e de finale aller. Il a pris un carton.
Alors
c'est problématique.
C'est une grosse perte parce que c'est un homme en forme en 2019. 4 buts. C'est un homme. 5 en tout, toutes compétitions confondues. 4 buts.
Mais c'est un homme important et quand il est bon. Et quand il est excellent, évidemment, le Stade Rennais en profite. Mais moi, j'ai une arrière-pensée internationale. Il y a ce qui se passe sur le front national et le front continental, mais il y a l'équipe nationale pour lui aussi. Il y a une Coupe d'Afrique des Nations dans quelques mois. Donc, le savoir, là, en pleine bourre, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que ce garçon, bah, il profite. Et puis, pour extrapoler un peu, parce qu'on va parler d'autres joueurs, c'est aussi un club, et ça me fait plaisir, qui fait confiance aux joueurs africains.
Alors ça, j'allais tout à fait vous
en parler, Frédéric. Il y en avait 5 dans le 11 de départ, hein. 5 joueurs africains. Alors vous avez Ben Sebaini, l'Algérien, qui a ouvert le score, et qui était également
sur le corner.
L'arrière gauche. Vous avez Amari Traoré, le Malien. Le Mozambicain,
Mes chers,
qui étaient là, et puis Mbaye Niang et Ismaïla Sarr, sénégalais, tout jeune.
Plus Ben Arfa, français, mais d'origine tunisienne.
Atem Ben Arfa, mais effectivement, Julien Stéphan n'hésite pas à les lancer, à leur donner leur chance, et c'est un pari qui a fait mouche hier.
Et des jeunes joueurs africains, des talents du continent que Rennes permet, auxquels Rennes permet de s'exprimer.
Parce que, justement, Xavier Barré a souligné quelque chose tout de suite, c'est que Rennes voulait investir sur des noms de pacotille, c'est-à-dire des noms ronflants, vibrants à l'unisson, c'est-à-dire des noms brésiliens. Ça n'a pas donné grand-chose.
Luis Fabiano, je crois, Xavier.
Aujourd'hui, on se rend quand même compte, comme on a souvent dit, peut-être que les joueurs africains sont sous-estimés, mésestimés même, mais en réalité, c'est de très bons joueurs. Quand on a vu, par exemple, moi j'ai vu Mbaye Niang à la Coupe du Monde, d'ailleurs, il a totalement effacé même Mané, qui était supposé être la
star de l'équipe. C'est lui qu'on a beaucoup plus vu, c'est vrai.
C'est lui qu'on a beaucoup plus vu. Donc, quand on essaie de venir avec des joueurs comme ça, mettre ces joueurs en confiance, ils peuvent être aussi très très efficace, comme justement on voit avec cette équipe de Rennes qui aujourd'hui porte quand même un grand socle africain.
Mais là je pense qu'effectivement il y a quelque chose de très vrai dans tout ce qui est dit, mais il y a un élément essentiel qui a été avancé tout à l'heure, cette aventure humaine, c'est qu'il y a aussi une discipline collective. Et là Fred Suto nous disait Ben Arfa, oui, mais au match aller Ben Arfa il avait voulu faire tout seul. Là Ben Arfa, pourquoi il a été bon? Parce qu'il s'est vraiment mis au service du collectif.
Il a été recadré, tu as raison.
Exactement, et c'est ça qui me plaît, moi. Les joueurs, qu'ils soient africains ou autres, il y en a qui ont un talent fou, et
à Rennes, il y en a eu beaucoup qui sont passés. Ouais. Mais effectivement, il n'y avait pas. Par exemple,
on a eu Laurent Pocou, paix à son âme, grand monsieur du football africain.
On remonte à très longtemps. Mais il n'y a pas eu que des joueurs qui n'ont pas toujours été dans les bonnes conditions. Il y a eu énormément de changements d'entraîneurs à Rennes. Et c'est vrai que là, le jeune Stéphane, le fils de Guy Stéphane, eh bien, il semble avoir un discours extrêmement mobilisateur.
C'est un Africain quand même qui était entraîneur là-bas, mais qui a échoué, la mouchie.
D'origine tunisienne, Sabri Lamouchi, ancien international français. Le huitième de finale, on en parlait, on est obligé d'en parler. Nouvelle soirée de gala, nouvelle double confrontation de gala face à Arsenal, le grand Arsenal d'Aubameyang, de Lacazette.
Ça a bougé, ça visiblement en plus.
Oui, alors il y a un tirage au sort à la mi-journée avec Arsenal qui a d'abord été tiré, puis Rennes. Donc match aller à l'Emirates normalement et le retour à Rennes. Mais le même jour, on aura Chelsea qui reçoit le Dynamo de Kiev. Or, le règlement nous dit qu'à Londres, on ne peut pas avoir deux matchs de foot d'une telle ampleur, Ligue Europa, le même jour. Arsenal et Rennes ayant été tirés en deuxième après Chelsea-Dynamo de Kiev, je ne sais pas si vous me suivez, ouais, on est obligé d'inverser les deux rencontres et donc le match aller se jouera bel et bien à Rennes.
C'est pas terrible.
On a d'abord eu l'info sur le Twitter d'Arsenal, les Rennais eux continuent à dire c'est chez nous et puis non, là finalement le président du club Olivier Le Tang, même s'il le regrette, a reconnu qu'effectivement le match aller se jouerait bel
c'est
et bien à
Rennes.
C'est
un peu étrange parce que cette semaine il y avait la même situation à Séville puisqu'il y avait deux matchs, et bien ils n'avaient pas inversé, le Betis a joué jeudi contre Rennes et le FC Séville avait joué contre la Lazio la veille, ils avaient juste décalé de 24.
Différence, on imagine que oui, le déséquilibre de l'affiche sur le papier. Non,
on a vu que Arsenal au tour d'avant avait perdu le match aller en Biélorussie 1-0, ils ont gagné 3-0 à l'Emirates au retour. Donc l'avantage de jouer le match retour à domicile, ça reste quand même.
Dans ce cas, on va aussi dire que Rennes s'est qualifié à l'extérieur. Rennes a été presque malmené à domicile, mais à l'extérieur.
On est d'accord.
Donc on peut toujours dire que ça peut aussi être un avantage. Et de toutes les façons, j'ai vu Arsenal pas toujours très souvent à domicile. Donc pour moi,
Jemine Gono ne voit jamais Arsenal souverain, donc les auditeurs ne peuvent pas te croire.
Si jamais le match est serré, il ne faudrait pas que on dise en permanence mais si Rennes avait joué le retour à domicile, etc.
Il faut qu'on avance et on aura l'occasion de se projeter sur ce huitième de finale. Un mot, chacun, oui ou non. Est-ce que vous voyez Rennes passer face à Arsenal, Rémi?
Allez, joue la cote.
Non,
faut jouer la cote, Rémi.
Oui, Franck.
Oui.
Non, franchement, le propre d'un exploit, c'est d'être un exploit. Je crois que ça sera pas possible.
Majorité
non, moi
non.
C'est pas pour équilibrer, mais oui, parce que
Ben Arfa qui retrouve une
aimerie. Non, mais l'épopée européenne. Enfin, on parle de ces clubs français en Ligue Europa. On a l'impression que toute la saison en championnat, on court après l'Europe en disant on essaie d'accrocher une place en Ligue Europa. Et puis la saison suivante commence et la Ligue Europa, faut aller jouer le jeudi au fin fond de l'Europe, donc on va privilégier le championnat. Et c'est ce qui s'est passé avec Bordeaux, l'OM cette année. Là, ils jouent le coup, les Rennais, et je peux vous dire que ils ont vu le tirage au sort. Les dates du 7 et du 14 mars, ils les ont déjà cochées.
Je vous dis que même Rennes, au niveau de championnat, ils ne sont pas bien positionnés parce que être 8e ou 9e actuellement en Ligue 1 n'est pas une garantie. Donc déjà, il faut se dire que bien évidemment, quand on voit leur prestation. Ils viennent de se faire ramasser là un 2-0 contre un promu. Donc je me dis aujourd'hui que en même temps, ce n'est pas tous les jours qu'ils vont sortir des exploits contre les équipes comme ça là. Encore que là, c'est une équipe espagnole. Souvenez-vous que les équipes espagnoles réussissent depuis un certain temps aux équipes françaises. La preuve, l'OM avait battu l'Atlético 3-1.
Allez, on met une première pièce dans le jukebox. Attendant la visite de Rennes en 8e de finale de l'Europa League.
C'est très apaisant. Hein,
Londres accueille. Il fallait apaiser les esprits après les paroles de...
Les griffes, les coups de griffes.
Rémi Ngaouno, les coups de griffes du Lyon. Lyon, donc en attendant Rennes. Londres, pardon. En attendant Rennes accueille dimanche la finale de la Ligue Cup. On s'embrouille. Chelsea et Manchester City se disputeront le premier trophée d'envergure mis en jeu dans cette deuxième partie de saison en Europe. C'est la Ligue Cup. Donc, l'entraîneur.
C'est pas le vrai nom, c'est le vrai nom, ça, vous êtes sûr? Il n'y a pas un petit nom de sponsor?
Oh, probablement, mais on n'est pas là pour citer des marques. D'accord. On va rester, soft.
C'est pas Carabao quelque chose?
Ouais, il a mal la Coupe de la Ligue.
Je ne veux pas savoir. Ce que je sais, en tout cas, c'est que l'entraîneur des Blues, Maurizio Sarri, Il joue gros. Va-t-il s'enfoncer dans ses errances, dans sa nuit londonienne, ou peut-il au contraire sauver sa tête en cas de succès face aux Sky Blues? Pour beaucoup, l'Italien, l'ancien coach de Naples, est déjà condamné. Chelsea n'est que sixième de Première Ligue. Ses relations avec son vestiaire seraient difficiles, pour ne pas dire plus. Et on se souvient que sa dernière rencontre face au City de Guardiola avait accouché d'un désastre, Xavier Barré.
Oui, ils avaient 6-0 effectivement à l'Etihad Stadium. Donc c'est alors qu'ils avaient gagné le match aller, on peut le rappeler quand même, en championnat à l'automne, à une époque où effectivement Manchester City était invincible et Chelsea donc avait mis fin à cette série. Chelsea qui était sur une belle dynamique, mais depuis le Chelsea de Maurizio Sarri s'est complètement essoufflé. Je pense surtout qu'il y a le gros défaut qu'il avait d'ailleurs à Naples aussi. Il fait jouer toujours la même équipe. Or il n'a pas
turnover, il connaît pas.
Voilà, il n'a pas l'expérience de l'Angleterre où il n'y a pas de trêve. En Italie, il y en avait une petite, pas beaucoup, mais il y en avait quand même une. Et Naples, la saison dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, était en tête du championnat à mi-saison et puis s'est effondré sur la deuxième partie de saison malgré un coup d'éclat en allant gagner à Turin en fin de championnat. Ils n'avaient pas réussi à tenir le rythme de la Juve et ils avaient encore une fois fini deuxième. Et là, avec Chelsea, il se reproduit un peu la même chose. Il est parti très fort. C'est vrai qu'on a été agréablement surpris par l'équipe de Maurizio Sarri cet automne. Et puis là, il y a eu derrière la fameuse période du Boxing Day et des fêtes de fin d'année où là, on s'arrête pas, on continue à jouer. Ils ont commencé à piquer du nez et derrière, maintenant ils ont vraiment du mal parce qu'il a un effectif pléthorique mais il prend toujours les mêmes.
Peut-il relancer son avenir à Chelsea, relancer ses Blues, relancer sa saison Sarri ce dimanche face à Manchester City, Franck Simon?
Je le crois pas, je pense malheureusement pour lui qu'il me paraît condamné à l'issue de cette saison. Voilà, parce qu'il s'est à l'évidence pas vraiment adapté à ce contexte si particulier du football anglais. Et Dieu sait qu'il y a des particularités, il y a des choses qui ne ressemblent pas au football italien, tout simplement, c'est logique. Et puis il y a tout un tas de noms qui circulent derrière. Voilà, donc il a vraiment une grosse pression. Il a aussi ce dernier match qui ne parle pas pour lui. On dit que le vestiaire l'a lâché, tout ça. Donc
mais c'est l'enjeu d'une finale. Est-ce que ça peut vous voulez
juste
des
l'isoler
idées à ses joueurs?
Vous voulez isoler la finale du reste? C'est pas possible.
C'est pas possible.
Non,
le contexte
paraît...
quand on entend les noms de
Laurent Blanc, ça doit quand même déstabiliser un peu un entraîneur. Hein. On a parlé de Zidane également, qui voudrait arriver avec des certitudes pour pouvoir recruter, comme si Chelsea basculait déjà sur la saison suivante.
Ils anticipent, tout simplement. On est quasiment en mars et ils sont déjà ils se projettent sur un avenir très très proche.
Guardiola va de nouveau triompher dimanche. Vous allez me dire ça, Rémi?
Malheureusement, je suis obligé de l'accepter, de l'admettre, parce que quand on voit
la résignation
ce que Sarri est en train de faire, oui, parce que Sarri, non seulement il ne parvient pas à trouver une formule, mais au-delà de ça, vous regardez comment est-ce que les joueurs ont un rendement trop faible, de telle sorte que même N'Golo Kanté, qui récupérait pas mal de balles au niveau du milieu de terrain, il s'est époumonné, lui qui avait qui était un moteur multicylindrique, il ne parvient plus à courir même parce qu'on dirait qu'il s'enlace. On voit Eden Hazard qui s'agace un tout petit peu parce que maintenant même il ne revient même plus parce que déjà il est en train d'annoncer que lui il est en train d'aller presque ailleurs parce qu'il a déjà presque un pied et demi au niveau du Real Madrid. Et puis qu'est-ce qu'on voit lorsque vous partez, lorsque vous regardez le dernier match, c'est quand même lamentable. Ils ont pris 4 buts en 20 minutes, c'est impossible pour une équipe de football de cette envergure-là. 4 buts en 20 minutes, ça fait que si Guardiola voulait d'ailleurs les humilier, ils auraient pu prendre même 10, tellement il y avait des occasions à créer. Quand vous regardez la défense de Manchester, de Chelsea, il n'y a personne qui puisse couvrir au niveau de la charpente, ça passe de partout. Et je dis, c'est terrible quand on voit Agüero et tout ce que City peut actuellement avoir comme des flèches offensives. Ce sera très difficile. Bon, malheureusement, le Chelsea d'aujourd'hui, c'est un Chelsea qui a un derrière totalement ouvert. Et comme le dit un proverbe africain, c'est quand le vent souffle qu'on voit les fesses de la poule.
Franck Simon.
Ouais, je voulais revenir sur ce que je vous disais il y a deux minutes. C'est-à-dire que, à titre personnel.
Je croyais que tu voulais revenir sur le proverbe.
Non, sur son proverbe.
On passe à autre chose. Ouais.
Autant, effectivement, je crois pas en leur chance. Autant, on sait très bien qu'une coupe nationale, et quel que soit le pays et quel que soit le niveau, la coupe, elle appartient aux joueurs. Ça sera un scénario totalement différent qu'ils vont vouloir inventer, les joueurs de Chelsea. Donc on peut être absolument sûr et persuadé qu'ils vont rentrer sur le terrain en faisant abstraction de ce qui s'est passé au dernier match. Effectivement, ils ont été lamentables, Rémi a raison de le rappeler, mais après, c'est une finale. C'est vrai que c'est un trophée à prendre, c'est un trophée à gagner, c'est peut-être aussi un petit quelque chose à se mettre dans la poche, c'est peut-être l'occasion de briller une dernière fois.
Juste pour rappeler le contexte, ils sont encore un petit peu compliqués pour Chelsea, alourdi, puisqu'il y a une interdiction de recrutement pour les deux prochains mercato suite à une affaire de transfert de mineurs. Le club a fait appel. Xavier, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, parce que c'est pas la première fois que Chelsea se fait pincer comme ça. Il avait été souvenez-vous l'affaire Kakuta à l'époque.
Ouais,
ça remonte, il l'avait pris mineur à Lens, je crois, et il y avait eu derrière une procédure, et puis Chelsea, avec son entregent, avait réussi à éviter les sanctions, mais ils avaient quand même été déjà sous la menace d'une suspension. Je comprends pas que ce club continue à faire ce genre d'erreur, alors qu'ils ont déjà été menacés de sanctions à l'époque, et surtout, on voit qu'ils ont actuellement dans leur effectif 41 joueurs qui sont prêtés dans d'autres clubs.
Bah, ils n'ont pas les permis, j'imagine, le permis de travail.
Alors ça,
il y a des jeunes, mais il y a aussi le problème du permis de travail en Angleterre.
C'est le cas des jeunes, mais là, par exemple, Victor Moses, ils l'ont prêté à un club turc. Enfin, on va pas tous les citer.
Bertrand Traoré avait été pas mal prêté.
À l'époque, oui. Il a pratiquement pas joué. Même Kevin De Bruyne, il l'avait pris. Alors, il y a quand même un malaise dans ce club où les entraîneurs ont 60-70 joueurs sous contrat à disposition.
C'est pour priver l'adversaire, Xavier, non?
Comment?
Est-ce que c'est pas pour priver la concurrence, prenant de jeunes joueurs talentueux un peu partout dans le monde, et puis on les met en couveuse,
alors
on les met sous cloche.
Ce serait un modèle plutôt.
Alors c'est pas.
L'Udinese a fait ça aussi. Hein.
Non, mais il y a beaucoup de jeux. Non, mais attention parce que depuis, les jeunes de Chelsea obtiennent des résultats. Il y a la Youth League, la Ligue des Champions des jeunes, qui se déroule en parallèle à la Ligue des Champions. Et Chelsea va d'ailleurs rencontrer, je crois, Montpellier, qui est le champion de France dans cette catégorie d'âge, au prochain tour. Et Chelsea l'a remporté déjà. Deux fois, il y a que le Barça et Chelsea ont remporté chaque fois deux fois cette compétition. Donc, et je crois qu'ils étaient en finale là, de la dernière édition contre Barcelone. Donc, les jeunes, ils les font venir et ils ont des jeunes de qualité, des étrangers et des anglais. Et derrière, quand il faut les faire monter en équipe première, bah, il y en a pratiquement aucun. On va encore chercher d'autres gars à l'extérieur. Donc, il y a quand même une politique assez incompréhensible dans ce club. Et à l'arrivée, bien que la FIFA et l'UEFA, enfin, là, c'est au TAS, on verra ce que ça donne, mais décident de sanctionner pour les débordements de cette politique, moi, je trouve ça tout à fait logique.
Frédéric, peut-être juste faire revenir José Mourinho, hein. Il est.
Mais il leur fait pas confiance aux jeunes, justement. Il le disait justement, mais non, les jeunes sont pas bons, alors qu'ils en recrutaient plein.
Allez, la finale de la Ligue Cup Chelsea City, c'est dimanche, et on rappelle que Manchester City, de son côté, a la possibilité de réaliser un quadruplé cette saison, de remporter 4 titres. Deuxième pièce dans le jukebox.
Manchester et Liverpool. Je me revois flânant le long des rues, au milieu de cette foule, parmi ces milliers d'inconnus. Manchester et Liverpool, je m'en allais dans tous les coins perdus, en cherchant ce bel amour que près de toi j'avais connu. Je t'aime, je t'aime.
Qui chante ça?
Marie Laforêt, la fille aux yeux d'or.
Superbe.
Ah oui.
C'est une petite pépite qu'on a.
Merci.
Que Laurent Salerno a.
Merci Laurent.
A déterré tout à l'heure, notre réalisateur. Manchester-Liverpool, c'est donc une rivalité en football. C'est aussi de l'amour. Donc cet amour chanté divinement par Marie Laforêt, c'était dans les années 60, les 60s, triomphante en Angleterre.
Et oui.
Puis c'est pas loin, ces deux villes qui se connaissent bien, qui se chamaillent depuis bien longtemps.
Deux voisins, et malheureusement, entre guillemets, c'est surtout l'animosité qui va prendre le pas ce week-end. Prendre le pas sur l'amour, l'animosité qui anime Red Devils et Reds quand ils s'affrontent. Et oui, le rouge à l'honneur également. Il n'y a pas que le bleu ce dimanche, puisqu'avant la finale de la League Cup, il y aura United Liverpool en première ligue. Ce sera à Old Trafford, à Manchester. Et l'objectif pour les Reds de Liverpool, ce sera de reprendre le fauteuil de leader du championnat anglais, Rémy Ngono, de prendre 3 points d'avance sur Manchester City. Et face à un Manchester United, hein, dont on se demande encore ce qu'il vaut depuis que Solskjaer a repris les rênes, l'a repris en décembre. Hein, Manchester United gagne pratiquement tous ses matchs, sauf ceux face au Paris Saint-Germain. Alors, qui va l'emporter dans ce choc, Manchester United, Liverpool, ce dimanche? Ouais.
Qu'est-ce que tu vois dans ta boule?
Je ne pourrais pas être prophète, mais toujours est-il que j'ai quand même vu que après ce match hyper décevant contre le Paris Saint-Germain, Ils ont sorti un match convaincant contre Arsenal et qu'ils sont d'ailleurs partis battre aisément. C'est vrai aussi que c'est un Arsenal brinque-ballant, boitillant, qu'on ne peut pas qualifier aujourd'hui.
Ils ont aussi battu Chelsea.
Mais donc c'est pour ça que je dis qu'ils ont battu surtout Chelsea, voulais-je dire, 2-0. Donc j'ai dit, quand on essaie de voir cette équipe, elle est pimpante parce que physiquement, je crois qu'elle tient encore. Mais sauf que derrière, il y a aussi une équipe de Liverpool qui a appris à gérer un certain nombre de choses parce que pratiquement, on peut dire que ce Liverpool a perdu quand même un nombre impressionnant de points contre les petites équipes. Vous vous rendez compte qu'au 29 décembre, on avait quand même un écart entre Liverpool et pratiquement Manchester City qui était de 9 points. Aujourd'hui, on se retrouve presque à égalité. Cela veut dire que, eh bien, Liverpool, de Klopp, lui aussi commet les mêmes dégâts, connaît aussi les mêmes baisses de forme que, comme nous étions en train de parler de Sarri. C'est-à-dire qu'il commence très fort en début de saison, mais par la suite, on voit toujours que le pressing intense qu'ils font en début de saison, au milieu de la saison et surtout à la fin de la saison, ils commencent à laisser des plumes. Et c'est pour ça que je dis que sur le plan physique actuellement, parce que Klopp également n'a pas beaucoup fait le turnover, alors que quand on a vu les Shakiri et autres arriver, on s'est dit qu'il allait faire beaucoup de turnover. Et il n'a pas fait le turnover comme il fallait. Et je vois un Salah aujourd'hui n'est pas aussi imposant comme celui de l'année dernière qui avait marqué 32 buts en championnat et 10 en Ligue des Champions. Certes, il est toujours là, mais il n'est plus aussi imposant que ça. C'est pour ça que je dis que ce Manchester United qui revient, qui est revigoré, et surtout avec Paul Pogba qui sait déjà que la Ligue des Champions s'est terminée, je crois qu'ils ont un coup sérieux à jouer et qu'ils peuvent prendre les points à Liverpool.
Avantage United, selon Rémi, vous êtes d'accord? Franck, Xavier, Frédéric?
Moi, Xavier. Non, c'est allez, pas, Xavier. Pour moi, c'est pas gagné pour Manchester United parce que c'est vrai qu'ils ont été bon depuis l'arrivée de Solskjaer et ils ont obtenu
parfois
des résultats.
Bon, très bon même, hein, des fois.
Oui, mais ils ont bien géré le coup dans les gros matchs, notamment face à Tottenham, ce qui était, je pense, le hold-up le plus parfait qu'ils aient fait, hein, ouais, avec 11 arrêts de De Gea sur la pelouse de Wembley face aux Spurs. Mais sinon, ça demande encore confirmation. On l'a vu quand ils arrivent au très haut niveau face au Paris Saint-Germain.
C'est fébrile.
Voilà, ils y étaient pas. Donc là, ils vont avoir un Liverpool qui est surmotivé par la perspective de ce titre de champion, qui est à égalité de points avec Manchester City, mais qui va donc revenir à égalité de matchs joués, hein, parce qu'il faut pas oublier que Manchester City a un match en plus, et donc psychologiquement c'est très important pour Liverpool de repasser devant, de remettre un peu Manchester City derrière. Donc moi je pense que ce match-là, Liverpool va tout faire vraiment pour l'emporter.
Oui, non, c'est ça qui est passionnant là. On est au cœur de l'hiver, mais le printemps approche et ces matchs décisifs, ils sont là avec Jurgen Klopp qui doit se poser des tas de questions. On est sur plusieurs tableaux. Il y a la Ligue des Champions où Liverpool a concédé le nul là, en huitième de finale aller face au Bayern, mais il y a ce championnat qu'ils n'ont pas gagné depuis 30 ans. Rémi nous parlait des 9 points d'avance durant le Boxing Day et puis là, paf, Manchester City est revenu. Bon, ben c'est là que ça devient véritablement passionnant avec United qui joue gros également, hein. Avec Solskjaer, ils sont revenus dans le bon wagon pour décrocher ce fameux billet pour la Ligue des Champions. Bon, bah, c'est des matchs à 6 points, à 9 points entre les ténors du championnat et bah, ça donne qu'une envie, c'est de se mettre devant la télé et de regarder quoi.
Mais ils sont gâtés les Anglais ce dimanche. Parce que ça va précéder la finale de la Ligue.
Ouais, franchement, ils sont gâtés, mais bon, c'est aussi toute la richesse de ce championnat, hein, un championnat de talent. Mais moi, je vois ce match, ce scénario de l'autre côté. Fred évoquait plutôt Liverpool qui est surmotivé. Moi, je pense que aussi du côté de United, ils sont sur une super dynamique. On les pensait vraiment perdus pour une place européenne, une place de Ligue des Champions. Même si c'est fragile sur le plan européen, je crois qu'en championnat ils tiennent le bon bout. La preuve, hein, Xavier le disait, contre Tottenham où ils font le parfait hold-up. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que Liverpool est un petit peu essoufflé. Ils cherchent ce fameux second souffle. Ça a rien à voir avec la qualité de l'effectif. C'est que simplement, bah, eux, ils jouent aussi sur tous les fronts.
Les Anglais ont la chance d'avoir la première ligue, nous on a la chance d'avoir la Ligue 1. Un dernier mot sur la première ligue et on passe à la Ligue des Talents, la vraie.
Non, juste pour signaler que Manchester United a pu préparer ce match toute la semaine. C'est vrai que c'est un peu en leur faveur alors que Liverpool joue en Ligue des Champions. Et donc le fait d'étaler comme ça les matchs de Ligue des Champions, de les décaler plus exactement, ça peut un peu fausser le calendrier des compétitions nationales.
Ça embouteille le calendrier, comme disait Xavier, Liverpool.
Allez, jamais 203, troisième pièce dans le jukebox.
Oh là là.
Oh là là.
Alors, encore Michel. Surprise. Oh Rémi Gonneau est fan.
Oh ouais. Là là, mais comment
le slow, le slow de l'été, Rémi.
Dans l'ovale des jeunes. Mettez les ampoules rouges.
Balle poussière.
Et papa n'était même pas au courant que j'étais sorti par la fenêtre.
On dérive complètement. C'est le problème des troisième tournée. C'est le moment où ça commence à devenir hors de contrôle, tout ça. Voilà, donc cette vision idyllique, un brin daté probablement de la principauté de Monaco en musique. Alors la belle vie est-elle de nouveau la norme? La beauté est-elle de nouveau la norme sur le rocher? Depuis 4 matchs et le retour de Leonardo Jardim, l'AS Monaco va mieux, c'est indéniable. Succès à Nantes le week-end dernier qui lui a permis de sortir enfin de la zone rouge, de voir s'éloigner un tout petit peu, un temps en tout cas, le spectre de la relégation. Mais il y a un test d'envergure qui se profile à l'horizon. Le club de la Principauté reçoit Lyon dimanche, en clôture de la 26e journée de Ligue 1. L'équilibre monégasque est-il trop fragile pour résister à un tel choc? On va poser la question à notre tombeur de Yaoundé, mon cher Rémi Gonneau.
Allez Rémi.
Je crois que ils ont quand même démontré un certain nombre de choses, surtout au niveau des recrues. Et je crois que...
Dis-nous le nom qui est important là en ce moment du côté de...
Je ne veux pas citer
c'est un bel international portugais de 23 ans.
Et... Voilà, c'est lui.
Voilà, parce que Gelson Martins.
Gelson, parce que au juste, c'est lui qui sème la révolte. Ce n'est pas Fabregas, la star qu'on attendait, mais le gars, il est venu avec ses styles de Diego Simeone, Lagnac, il veut absolument jouer.
Sauf que Diego Simeone, il voulait pas de lui.
Surtout que Diego Simeone l'a mis au banc. Il a vu que pratiquement il avait beaucoup d'adrénaline, mais quand il est arrivé, pratiquement c'est un gars qui veut tout dévorer. Il court et de telle sorte que parfois même on
il est pas discipliné, il est pas trop discipliné. C'est pour ça aussi que le Cholo l'a pas conservé, l'a prêté. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un talent depuis qu'il est arrivé. On l'a vu débuter les deux premiers matchs, c'est 4 passes décisives.
Ouais.
Voilà, les deux premiers matchs. Et depuis, je crois qu'il a dû marquer 2 buts encore.
Il a marqué le but de la victoire contre Nantes.
Il est plein de bourse, ce garçon.
C'est un super grand joueur. Et le fait que l'entraîneur, on le connaisse bien, Leonardo Jardim, soit portugais, donc forcément, ça facilite
l'adaptation. Il l'a connu au Sporting, mais sans l'avoir fait jouer, parce qu'il était un peu.
Il était jeune.
Voilà, il était chez les jeunes du Sporting.
Mais ils ont récupéré également Adrien Silva, qui est un milieu de terrain extrêmement précieux dans un registre où il manquait. Je crois qu'il y a un nouveau contexte, effectivement, à Monaco. Et Leonardo Jardim, il fait pas ce qu'il sait pas faire. Il n'est pas revenu comme Thierry Henry est arrivé en disant voilà, on va jouer comme ça, on va faire ça. Non, lui il est arrivé, il bétonne, voilà, il remet une défense solide, il remet des joueurs qui sont prêts au combat, des attaquants qui vont vite devant et ça marche parce qu'il y a de la qualité. Il y a de la qualité. Le défaut à Monaco, c'est effectivement qu'il y avait beaucoup de blessés et puis qu'il y avait un problème de management. Leonardo Jardim, c'est pas flamboyant mais ça marche.
Alors le problème c'est que là il y a Lyon qui se profile. Lyon, faut-il le rappeler, qui a tenu en échec le Barça.
Ils seront peut-être
en Ligue
peu,
des Champions cette semaine.
Ils seront peut-être un peu fatigués. J'ai envie d'utiliser l'argument de
Xavier tout à l'heure. On trouve un peu le même scénario que Liverpool.
Oui,
hein.
Oui,
Lyon, avec ce 0-0 face à Barcelone, se dit et il y aura un coup à jouer au Camp Nou dans 3 semaines. Les joueurs doivent déjà avoir la tête à ce grand rendez-vous. Mais il y a le championnat. Il faut assurer la 3e place parce que devant, il y a Lille, il y a le Paris Saint-Germain. Non, c'est match piège hein, pour les Lyonnais. Là.
Ouais, je pense que Monaco, ils ont les crocs. Ils sont sûrs aussi sur ce début de série qui est intéressant. Il y a les compteurs qui ont été remis à zéro. Jardim qui est de retour, qui aurait sans doute jamais dû bouger en vérité. C'est une erreur.
Donc c'est redevenu un choc potentiellement équilibré.
Ça reste.
J'aurais jamais dit ça d'ailleurs au match aller.
Il n'aurait jamais dû bouger. Peut-être qu'en revenant, il va redonner l'élan qui n'était plus en mesure de donner au mois d'octobre.
Peut-être quand même, non?
Oui, non, mais voilà. Mais je pense qu'il fallait peut-être que Leonardo Jardim parte pour mieux revenir.
Ouais, après, en face, vous avez un extraterrestre dans le but en ce moment.
Anthony Lopez, le portier
voilà,
de.
Voilà, alors il connaît bien, lui pour le coup, il connaît bien les Adrien Silva et notamment Gelson Martins, ils étaient ensemble en Coupe du Monde. Donc il maîtrise, il sait le danger. Et en plus, Gelson Martins, c'est passeur et buteur. Comme le disait Rémi, comme le disait Xavier, c'est un gars qui est capable de déstabiliser n'importe quelle défense. Il peut jouer couloir, plutôt à droite, mais aussi à gauche. Il est très adroit. Il peut évoluer derrière les attaquants. Franchement, c'est lui le danger numéro un et il peut faire profiter les autres de ça, quoi.
Un autre pensionnaire de la Côte d'Azur doit tester sa nouvelle résistance. Il s'agit de Marseille, quatrième, et donc deux nouveaux prétendants au podium. Marseille qui vient d'enchaîner trois succès après une interminable période de crise et de polémique, hein, comme ce club en a le secret, hein, des périodes comme ça très propres à l'Olympique de Marseille. Après Bordeaux, Dijon et Amiens, les Phocéens peuvent-ils dominer Rennes ce dimanche? Là, on boucle un peu la boucle de notre émission. Déplacement à Rennes, Marseille va-t-il poursuivre sa série, Rémy Gonneau?
Il faut se dire que quand on parle de série, c'est une série avec des faibles. Parce qu'il faut se dire que sur les points que Marseille prend, c'est uniquement avec les 5 derniers. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est une équipe hyper flamboyante. Si vous prenez la quasi-totalité de vos points avec ceux qui ont un demi-pied. Donc pour moi, mais en même temps, Rennes aussi peut parfois paraître décevant. Parce que autant Rennes nous a sorti un somptueux match, autant Rennes nous a déçus. Contre, par exemple, Reims, c'est-à-dire que lorsqu'ils prennent deux buts, vous dites, mais c'est pas possible, comment est-ce qu'ils ont fait pour jouer de cette façon-là? Mais en même temps, il faut quand même se rappeler que cette équipe de Reims a eu à déjouer une équipe comme Saint-Étienne en lui infligeant un 3-0. Et Saint-Étienne, ce n'est pas n'importe qui. Donc, moi, je me dis, Reims, qui aujourd'hui a beaucoup plus confiance et qui va recevoir, je crois que l'Olympique de Marseille, c'est le véritable premier test. Parce que tous les autres ont été en train de chanter, sauf qu'on ne regardait pas que Marseille était en train de se faire sa santé sur des morts vivants.
Xavier, ouais, vous êtes d'accord? Les Marseillais doivent trembler?
Non, je pouvais pas être tout le temps d'accord avec Rémy Gonneau. Non, mais les Marseillais n'ont aucune raison de trembler et ils vont même gagner, je pense, à Rennes. Parce qu'ils arrivent, eux, ils ont pas joué depuis combien? Depuis une semaine. Alors que Rennes a laissé une énergie colossale dans ce déplacement à Séville.
Ouais, et pas que physique pour le coup.
Bien sûr, même avec la meilleure volonté du monde, ils vont tomber sur une équipe de Marseille qui est actuellement vraiment redynamisée, notamment par l'arrivée de Balotelli, et donc qui elle n'a plus le choix. Ils sont dans l'obligation de marquer des points en championnat pour essayer de
décrocher
le bon wagon. Rennes aussi, mais Rennes, ils ont tellement la tête à l'Europa League que je pense que ça va être très compliqué pour eux ce match contre l'OM.
Et du côté de Marseille, oui, c'était Bordeaux, Dijon et Amiens, mais peu importe, c'est une série de 3 matchs gagnés et c'est presque inespéré pour l'Olympique de Marseille, hein. Souvenez-vous, il y a un mois, enfin, ils n'avaient plus gagné un match depuis le mois de novembre. Rudy Garcia était plus près de la porte de sortie que du Vélodrome. Et puis, Mario Balotelli est arrivé, on le disait hors de forme, 3 buts en 4 matchs, comme s'il avait pris la pression sur lui. Et l'OM se met de nouveau à croire.
C'est pas du bricolage non plus, quoi. Ça va vraiment mieux.
On peut même rêver de la Ligue des Champions. Hein. Lyon est à 6 points.
Ça pourrait être un bon week-end. Pourquoi pas, mettons une défaite de Lyon. Ouais,
ouais. Vous croyez que le Stade Rennais va leur dire on ouvre les portes? Non, je pense qu'ils sont effectivement, ils sont affectés sur le plan, certainement sur le plan physique, athlétique, certainement sur le plan mental aussi, parce qu'ils ont laissé de l'énergie. En même temps, il y a toujours, on joue sur les nerfs, on joue, c'est dimanche, hein, donc ils jouent 3 jours après. Vous pouvez être persuadé qu'ils vont tout donner, ils sont devant leur public. Et Julien Stéphan, l'entraîneur, vous croyez qu'il va leur dire, les gars, c'est bien, vous avez fait le taf, on est qualifié en 8e, surtout, hein, faites-vous plaisir contre l'OM, hein, régalez. Non, ils vont y aller, ils vont faire comme quand ils ont joué contre le Bétis. Ça peut accoucher d'une rencontre très spectaculaire. On peut très bien avoir un match nul, parce que d'un côté, il y a l'OM qui a besoin de continuer sa série, et de l'autre, Rennes chez lui qui veut prouver que, ben voilà, ils sont de taille face à un candidat, un ancien candidat à la Ligue des Champions pour le football français.
En tout cas, ça nous donne une autre très belle affiche à suivre en Ligue 1 ce week-end, Rennes-Marseille. La fin du Café des Sports, bien évidemment, c'est les cartons.
Carton jaune,
du magazine qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge
dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Les cartons avec un invité surprise, hein, pour refermer cette émission, notre stagiaire de la semaine, Varel. Varel, bonjour.
Bonjour.
Alors,
bonjour à tous.
Quelques mots sur toi. Tu as quel âge et d'où viens-tu?
J'ai 14 ans et je vis à Paris. Et je suis venu ici aujourd'hui pour mon stage de 3e.
Et t'es supporter de quel club?
Paris Saint-Germain.
Ah ben voilà, ça c'est.
Il y en a de plus en plus, hein, ces dernières années. Oui. Ils se sont multipliés depuis 2011. Alors Varel, ton carton, tu l'adresses à qui, à quoi? Et de quelle couleur est-il d'abord?
Mon carton, il est vert.
Et un verre comme les chocolats qu'il a apporté.
Faudra qu'il vienne. Excellent. Très bon les chocolats. Vas-y Varel, excuse-nous.
Bah de mon côté, ce sera un carton vert pour rendre hommage à Lassane Adjara qui part à la retraite à 33 ans. C'est donc dans l'anonymat d'une victoire en Ligue 1 contre Amiens le 20 octobre dernier que le surnommé Lass a pour la dernière fois goûté au terrain. Malgré ses blessures répétitives et la forte concurrence à son poste dans les clubs où il est passé comme le Real Madrid ou l'Olympique de Marseille, Lassane Adjara, international français à 34 reprises, s'est imposé comme un patron au milieu grâce à ses qualités techniques et physiques. Donc pour moi, il est une personne travailleuse, souvent dans l'ombre, qui a persévéré pour lancer sa carrière.
Bravo Varel, qui a fait l'effort d'écrire
si
son carton, c'est très bien écrit.
Mais waouh.
Ouais. C'est bien. À la place de Lassane Adjara, on serait flatté. Merci beaucoup Varel. Rémy N'Gono, ça va être mon studio là, je pense.
Alors,
la couleur de votre carton.
C'est un carton rouge qui est donné par Donat Kouyoula de ma page Facebook Rémy N'Gono officiel. Il adresse donc son carton rouge à Diego Simeone qui, après le but de Jiménez, nous a fait une séance de pornographie hors norme.
Alors c'était face à la Juventus en Ligue des Champions, l'ouverture
oui,
de
contre
score.
La Juve donc totalement. Et tout cela est passé inaperçu, on n'en a pas fait des débats, on a trouvé que c'est normal parce que c'est quelqu'un qui exprime ses émotions. Et lorsque Mourinho tient juste l'oreille, ça fait le débat dans toutes les chaînes de télé, de radio. Mais quand celui-là, il attrape son bas-ventre devant les petits-enfants, leur montre comment est-ce qu'il est un éléphant par le bas.
Il
mais
a
attendez, attendez, mais c'est pas possible. Donc il y a un proverbe africain qui dit que bon, quand tous les autres oiseaux chantent, on applaudit, mais dès que le hibou tente à chanter, on dit qu'il est sorcier.
Ah, il me semble qu'il y a eu quand même une petite polémique après, après ce geste de Diego Simeone. Franck Simon, votre carton.
Moi, mon carton, il est rouge et il est adressé à Turki Al-Sheikh, le saoudien, le patron en fait de l'autorité sportive et loisirs saoudienne, qui a acheté en juin passé un club qui s'appelait Asyuti Sport en Égypte, qui est devenu le Pyramide FC, qui est actuellement deuxième du championnat. Et figurez-vous qu'il en a fait un port de passage pour les joueurs sud-américains, africains, etc., etc. Et il vient de le vendre, tout simplement. Il sera même pas resté un an. Il vient de bâcher le club. Il l'a vendu à un Émirati, voilà. Il a fait un passage éclair. Et avec tout ça, ben, on a évidemment le doute sur la suite de l'histoire de ce club qui est actuellement deuxième, je le rappelle, du championnat égyptien et capable de jouer une Coupe d'Afrique en 2020.
Merci Franck Simon.
Même carton rouge aussi, carton rouge à Mauro Icardi qui est sous le coup d'une empoisonneuse qui s'appelle un poison nommé Vanda Nara qui effectivement lui monte le bourrichon en disant t'es le plus beau, t'es le meilleur, c'est normal, c'est son compagnon, son mari. Mais
la fameuse Vanda, oui.
Mais à l'arrivée, ce garçon qui a probablement du talent, même si moi je suis pas un fan absolu, il est en train de foutre en l'air complètement sa carrière par son comportement tout à fait irresponsable. L'été dans les tribunes du stade Giuseppe Meazza à Milan pour voir jouer l'Inter parce qu'il n'était pas sur le terrain, parce que il a des états d'âme vis-à-vis de son club. Il était officiellement blessé, mais en fait tout le monde sait qu'il est en conflit avec les dirigeants. Il veut pas, il se plaint de sa situation, alors que pour le moment, qu'est-ce qu'il a démontré dans sa carrière? Pas grand-chose. D'ailleurs, il est même pas en équipe d'Argentine parce que Messi estimé et ça l'avait, il l'avait prouvé d'ailleurs que c'était compliqué de jouer avec lui.
Rapidement, le carton de Frédéric Suto.
Un carton vert et on va retourner du côté de Madrid et de l'Atlético de Madrid. Allez, pour contrebalancer l'attitude un peu excessive de Diego Simeone, la doublette uruguayenne avec Jiménez et Godin, les deux défenseurs centraux. Un match superbe de l'Atlético avec Antoine Griezmann à la baguette. Ils ont marqué tous les deux en fin de match 2-0. Pour l'Atlético face à la Juve.
Ainsi se referme le Café des Sports. Merci messieurs, Radio Foot revient lundi. En attendant ce week-end, Mondial Sport sur RFI bien sûr. Ciao.